Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 29 janvier. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Et Marine n'est toujours pas là, elle est avec les sœurs bénédictines hein, dans le monastère, elle y reste encore une semaine.
Costa Rica, non ? Non, c'est pas ça.
Oui,
c'est ça, Costa Rica.
Aujourd'hui, au sommaire, la guerre, l'esclavage, l'exil et les étoiles, c'est un peu ça. Le résumé, tu vas nous parler de quoi, Manu ?
Eh bien, du dernier Miyazaki, hein, qui a annoncé d'ailleurs sa retraite à la dernière Mostra de Venise. Et puis, du tout premier film de John Carpenter, Dark Star, un film totalement autre.
Et moi, je parlerai aussi des étoiles, enfin, pas bois directement, mais la réalisatrice Diana Guy, qui sort aujourd'hui son premier long-métrage, qui s'appelle Des étoiles, mais c'est un film plutôt sur l'exil et pas du tout un film de science-fiction. Et puis, on parlera de 12 Years a Slave, le dernier Steve McQueen, film oscarisable. Et puis, ça nous permettra, ce film, sur l'esclavage, bien de nous... J'allais dire de nous amuser, mais on
va pas s'amuser avec l'esclavage.
Non, ouais, on va pas s'amuser. Mais on va essayer de deviner, en tout cas, des films qui traitent de l'esclavage avec un blind test avec pas moins de 6 extraits. C'est Cinérama.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule.
Cinérama.
Je suis allergique.
Sur Divergence FM.
Les premiers mots en fait, de l'ultime long-métrage de Miyazaki sont signés Paul Valéry. « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». Je me suis posé beaucoup de questions sur ces vers, je ne sais plus de quoi c'est tiré, mais bon, je m'en suis posé beaucoup. Enfin, une injonction est donc au cœur de ce film hein, qui pousse un peu à l'optimisme, en dépit d'une histoire d'amour un peu larmoyante et d'un contexte politique peu reluisant. Le cinéma de Miyazaki est tout entier dédié à l'espoir, à son amour des personnages, des paysages, des destins uniques. Sa foi en l'individu n'a rien de niais, il n'a pas besoin de happy end pour transmettre sa vision artistique, celle d'un humaniste, d'un éternel utopiste qui ne sait que trop bien que l'homme puisse être capable de bien des horreurs. Alors dans Le vent se lève, il garde le meilleur. La guerre reste hors champ, nulle ambiguïté dans le traitement de son sujet, en dépit de nombreuses polémiques, hein, notamment au Japon et en Corée. Miyazaki raconte l'histoire de Jiro, qui en s'inspirant des travaux du concepteur d'avion Capronini, je crois, va devenir l'un des grands ingénieurs aéronautiques du monde. Il va mettre au point un avion révolutionnaire à des fins belliqueuses pendant la guerre 39-45. Mais Jiro est avant tout un rêveur, un pacifiste qui, par contre, ne prendra jamais position contre la guerre, mais continuera jusqu'au bout ses travaux. Son rêve ultime était de voler, mais sa mauvaise vue l'en a toujours empêché. Il va aussi tomber donc amoureux d'une Naoko, malheureusement atteinte de tuberculose. Voilà, le vent se lève traite en filigrane, je trouve qu'avec beaucoup de délicatesse, certains des grands drames qui ont traversé le Japon pendant une partie du siècle dernier. La Grande Dépression, le séisme de El Kanto en 1923, la misère très présente à Tokyo, l'engagement des Japonais aux côtés des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Séquence impressionnante hein, qui évoque donc le tremblement de terre de 1923. Enfin, voilà. autant le dire tout de suite, Le vent se lève est une fresque d'animation pour adultes. Les enfants risquent de s'y ennuyer profondément. une partie de son fidèle public aussi peuvent trouver les enjeux assez minces et trouver le temps long aussi. Donc la fantaisie, l'imaginaire délirant qui dynamisait des chefs-d'œuvre comme Le Voyage de Chihiro ou Princesse Mononoké laisse place ici à une œuvre romanesque et secrète, très influencée par l'impressionnisme sur le plan pictural et puis l'œuvre de Saint-Exupéry sur le plan narratif, un des auteurs préférés de Miyazaki, qui déjà, que l'on retrouvait déjà dans un autre film dédié à l'aviation, Porco Rosso. Voilà, publicité par une presse unanime, alors c'est certainement parce que c'est son dernier, hein. Le vent se lève est donc l'œuvre ultime du japonais, non pas son testament, mais vraiment ses adieux au cinéma. Il y a peu de risques qu'il fasse comme Besson.
C'est-à-dire
bah de revenir, hein. Il avait annoncé ses adieux au cinéma aussi, après Angela, ouais. Luc Besson. Et puis non, il est malheureusement revenu. Ouais. Donc Miyazaki a brisé donc, les barrières qui séparaient l'animation du cinéma dit sérieux. Du moins, il est le premier envers qui la reconnaissance fut totale. Je trouve, il est considéré aujourd'hui l'égal d'un Kurosawa ou d'un Ozu. Outre la fluidité de l'animation et la beauté des paysages peints à l'aquarelle, il y a une forte influence de Monet, Le Vent se lève est porté par une vraie mise en scène, ample et inspirée, pensée en termes de montage, narration, échelle de plan. Elle parvient à faire exister d'authentiques personnages, bien plus que dans la majorité des productions avec des acteurs en chair et en os. Alors le film n'est pas exempt de longueur, et peut paraître parfois hermétique pour des gens qui restent un peu étrangers à l'aviation ou aux thèmes traités. L'histoire d'amour peut paraître aussi un peu convenue, mais je trouve qu'il y a quelques séquences comme ça qui sont bouleversantes, notamment une du coup liée à l'histoire d'amour où Nakoto, je ne sais plus comment s'appelle la jeune fille, demande à Jiro de rester près d'elle même s'il doit allumer une cigarette parce qu'elle lui dit qu'elle n'en a plus pour très longtemps. Je trouve que c'est une scène très très simple et très très belle, tout droit pour moi tiré d'un film d'Ozu. Enfin, je trouve que
il continue même à travailler sur sa planche à dessin.
Il continue à travailler.
C'est un ingénieur effectivement qui a une envie folle de réaliser un avion, même s'il sait que cet avion va servir à sans doute faire la guerre, à rendre le Japon un peu plus valeureux, un peu plus puissant, parce qu'il est toujours question de ça. Le Japon n'est rien. Quand le film commence, le Japon n'est rien. Un tremblement de terre détruit Tokyo. Enfin voilà, on est face à ça quand même. Alors c'est quand même pour moi un beau Miyazaki, parce que comme tu le dis, effectivement, il y a des aquarelles, il y a des teintes qui sont vraiment vraiment splendides. Après, l'histoire d'amour. Effectivement, est très larmoyante et il y a des longues séquences quand même, je trouve, sur cette histoire.
Mais bon, oui, il y a des longueurs. Il y a une chose assez curieuse qui a fait polémique aux États-Unis, c'est de sortir un film d'animation dans lequel le personnage fume tout au long du film. Ça a posé beaucoup de problèmes aux États-Unis en fait.
Les pauvres.
Les pauvres.
On passe de la guerre cette fois-ci, à l'esclavage.
Cinérama.
Parce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, fourrière et compagnie.
Sur Divergence FM.
L'an dernier, c'était le Tarantino d'oubli du Lincoln de Spielberg. Cette année, c'est 12 Years a Slave de Steve McQueen. Voilà trois manières différentes de nous montrer les années d'esclavage aux USA, chacun ayant sa patte pour raconter cette période de l'histoire américaine. Tarantino y mettra du second degré, de la fantaisie et des coups de feu. Spielberg y placera du lyrisme et un sens historique. Quant à Steve McQueen, il cernera son sujet, ne s'éparpillera pas et se montrera exclusif, comme il l'a fait pour ses deux premiers longs métrages. Tout d'abord Hunger, où il s'infiltrait dans une prison d'Irlande du Nord aux côtés d'un gréviste de la fin de l'IRA. Le silence, la violence et l'appétit politique suintaient de toutes parts. Et puis pour Shem, alors on remarquera d'ailleurs au passage le plaisir qu'a le réalisateur à choisir des titres courts, dans Shem, l'étonnant Michael Fassbender, qui avait perdu tous ses kilos et tenait à peine debout dans le précédent film, était cette fois-ci un type plein aux as, intoxiqué du sexe, incapable d'avoir une relation émotionnelle stable. Il était de chaque plan, on ne le perdait jamais, pas plus que sa névrose envahissante. Alors ce qu'il est parvenu à faire pour 12 Years a Slave n'étonne pas. Alors d'abord parce qu'il s'agit encore d'enfermement, une notion qui semble obséder le réalisateur britannique. Un film fort, dur, teinté de réalisme, avec quelques pointes de lyrisme, mais aussi un film lumineux, plus attaché à nous faire entendre ce temps-là de l'esclavage où des hommes disposaient d'autres hommes qu'à nous transmettre le pathos. Là encore, il colle à son sujet, celui qui nous raconte l'histoire, est Solomon Northup. Il est de tous les plans. On le voit passer d'un état d'homme libre à esclave en un court laps de temps. On reste ensuite dans le sud profond. On passe d'une exploitation à une autre, d'un propriétaire compréhensif à une brute, d'un idiot à un exécutant. Toujours avec le regard de Solomon, musicien qui a connu la liberté, la vie modeste en famille, et qui doit maintenant se conformer à l'idée qu'on a d'un nègre, un inculte doué éventuellement pour la musique et la danse. On n'échappe pas à la violence, à l'injustice, à la cruauté ou encore à la lâcheté, mais on a aussi des preuves de courage et on voit une large incompréhension. Alors on pourra en faire un long catalogue effectivement de tout cela. Tous les ingrédients d'un film sur l'esclavage ont été brillamment orchestré, mais Steve McQueen, qui savait si bien nous montrer les cellules crasseuses d'Irlande, nous montre ici une nature extravagante qui tranche avec le quotidien fait de labeur des esclaves noirs amenés en Louisiane.
T'as retrouvé la santé ?
Je m'appelle Solomon Northup. Je suis un homme libre et vous n'avez aucun droit de me séquestrer.
T'es pas un homme libre.
T'es rien de plus qu'un clandestin évadé de Géorgie.
Went down to the river Jordan.
Et le serviteur
qui n'obéit pas à son seigneur,
celui-là sera battu par le fouet de nombreuses fois. Parole d'évangile. La condition de vos travailleurs, elle est abjecte.
C'est ma propriété. Vous l'énoncez avec fierté.
J'énonce un fait.
Parle !
Un homme a le droit de disposer de sa propriété.
Reviens ici.
Maître.
Donnez le revenir !
Il n'y a même pas 10 jours, j'étais avec ma famille. Chez moi. Et toi, tu me dis de renoncer à tout.
Si tu tiens à la vie, ne fais et ne dis que le strict minimum.
Je ne veux pas survivre. Je veux vivre. Je ne suis pas un esclave.
Une bande-annonce un peu bizarre, d'ailleurs, qui reprend le thème musical d'une autre bande-annonce, le film La Taupe.
Et c'est tout le temps. Hein,
et dans les deux cas, d'ailleurs, cette musique ne se retrouve pas ensuite dans le film, parce que là, je crois que c'est Hans Zimmer qui fait la bande-son. Donc la critique est plutôt unanime. Il ne manque que les cahiers du cinéma, qui, avec leur légendaire gueule de bois, comparent Steve McQueen à un artisan hollywoodien. Le critique devait être occupé à réviser son Michel Chion à la lumière de son portable pour ne pas s'apercevoir que ce film porte en lui une identité qui n'est pas plus hollywoodienne que bon nombre de films. Alors évidemment, il va pouvoir aller, Steve McQueen, à la cérémonie des Oscars tranquillement, mais plutôt parce que son thème est fort et parce que les acteurs y sont excellents. Il y a Fassbender, évidemment, il y a Brad Pitt et puis il y a Chiwetel Ejiofor, je crois, comme ça qu'on dit, donc celui qui incarne Solomon. Alors Steve McQueen ne s'amuse pas avec son thème en déréalisant l'esclavage par le biais d'un homme extraordinaire, comme a pu le faire Tarantino. Il n'a pas non plus pris une figure historique comme Spielberg qui s'est gargarisé avec un biopic. Au contraire, il a pris un homme ordinaire au sens où c'était un homme libre confronté à un destin extraordinaire et tragique. Alors il n'y a pas de magie, c'est beaucoup plus subtil. À mesure que le film avance, sa précision peut provoquer le dégoût et faire naître un sentiment de misanthropie, mais le film ménage aussi une autre voie, se garde d'être naïf, niais ou vertueux. 12 Years a Slave est sobre, beau à la fois, il y a des gros plans, il y a des plans séquences, enfin, tout ça est formidablement bien orchestré, et puis il y a vraiment cette nature qui est assez extravagante. On est dans la Louisiane, il fait très beau, enfin, en même temps il y a toujours des insectes qui sont là dans le plan, et puis il y a un découpage qui nous amène à rentrer avec, dans la vie de cet esclave et puis aussi de ceux qui les accompagnent dans ces plantations. Avec un Michael Fassbender qui joue plutôt bien un type absolument effroyable. Voilà, je ne sais pas combien il aura d'Oscars, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est quand même plutôt fidèle à sa manière de présenter ses sujets. Enfin, Steve McQueen, c'est son troisième film.
Je n'ai jamais vu de Steve McQueen.
Ah ben, je pense que tu peux te faire les trois à la suite. Alors, ça nous donne l'occasion de jouer à un petit blind test. Et on va donc essayer de découvrir des films qui traitent de l'esclavage. On commence par un facile.
Réfléchissez. La seule possibilité d'acheter ou de vendre des esclaves, c'est qu'ils soient venus au monde, esclaves, par exemple, sur une plantation. C'est bien cela, n'est-ce pas ?
Oui.
Bon, alors le sont-ils ?
Le sont-ils ?
Oui. Sont-ils venus au monde esclaves sur une plantation ?
Nous n'en sommes pas tout à fait sûrs, mais nous pensons que non.
Bien, ce sont des esclaves. S'ils le sont, ce sont de simples biens et ne méritent pas plus un procès pénal qu'une bibliothèque ou une charrue. et nous pouvons tous rentrer chez nous. D'un autre côté, disons que ce ne sont pas des esclaves. S'ils ne le sont pas, ils ont été acquis illégalement, n'est-ce pas? Oubliez la mutinerie, la piraterie, oubliez le meurtre et tout le reste. Ce sont des événements hors de propos et postérieurs. Ignorez tout sauf la véritable origine de l'affaire. Le transfert injustifié de biens volés.
Voilà, donc ça c'était facile, Manu, c'est...
Amistad de Spielberg.
De Spielberg, en 97. Deuxième extrait.
N'avons-nous donc rien appris? Que devenons-nous? Nous cherchons du vin alors que nous n'avons pas de pain.
Lorsqu'on a du vin, on peut se passer de pain.
Vous n'allez pas tous devenir des ivrognes et des bandits.
Que veux-tu que nous soyons d'autres?
Des gladiateurs. Une armée de gladiateurs. Une armée comme il n'y en a jamais eu. Un gladiateur vaut deux soldats romains. Ils n'ont rien à nous apprendre.
C'est vrai, nous avons battu nos gardiens, mais une armée romaine, c'est différent. Ils ont appris à faire la guerre, pas nous.
Mais nous battrons tous ceux qu'ils enverront contre nous si nous en avons la volonté.
Il faudra une armée nombreuse.
Nous aurons une armée nombreuse quand nous nous mettrons en marche. Nous libérerons les esclaves de toutes les villes et de toutes.
Eh oui, c'est Kirk Douglas, Manu. Donc c'est
Spartacus.
Film de Stanley Kubrick qui a remplacé Anthony Mann, qui faisait pas l'affaire selon Kirk Douglas, qui produisait le film. Un autre extrait.
Regardez-le bien, j'ai l'impression qu'il vous répond.
Il a un don d'imitation assez remarquable, en effet.
Il n'est pas du tout comme les autres. Il se sert de cette vieille couverture comme vêtement. Je me demande ce qu'il donnerait si on lui faisait passer le test d'Hopkins sur l'habileté manuelle.
Non, un animal.
Regardez, il bouge ses doigts.
Simplement parce qu'il vous a vu bouger les vôtres.
Oh, mais il a peut-être compris.
Sottise, l'homme est incapable de comprendre. Tout au plus arrive-t-on à leur apprendre quelques tours faciles, mais c'est tout.
Je crains de ne pas pouvoir être d'accord, Excellence. D'après mes expériences...
Docteur Zira, je vous mets en garde. Que vous fassiez des expériences chirurgicales sur le cerveau de ces créatures est une chose, et vous avez mon agrément. Mais vos études sur le comportement de l'homme ne me disent rien qui vaille.
Ah, ça c'était facile.
La planète des singes, hein, la première version de Franklin J. Schneffer. Mmh.
Avec Charlton Heston qui se fait examiner, et voilà, où on s'amuse eh bien à mettre les hommes en état d'esclavage. Un film assez étrange cette fois-ci.
Vous êtes une crapule!
J'ose dire que je ne fais pas ça de gaieté de cœur, mais je vous prends tous à témoin. Affirmez-vous expressément que vous vous appelez bien Amanda Starr?
Oui, c'est ainsi que je m'appelle.
Amanda, il a été affirmé et juré sous la foi du serment que vous êtes issue d'une esclave nommée Louisa. Cette esclave était la propriété de Aaron Pendleton, décédé. Étant issue d'elle, vous êtes déclarée par la loi de cet état comme faisant partie des biens de Starwood et assujettie à toute réquisition sur ce domaine.
C'est un réalisateur, Manu, disais-je, qui fait plutôt dans le western d'habitude.
Mais j'ai pas trouvé.
Alors, c'est L'Esclave Libre de Raoul Walsh, et c'est un film de 57. Film assez étonnant, hein, parce que l'héroïne qu'on entend est tout à fait blanche, et pourtant, elle est le fruit d'une union entre son père qui était blanc et une esclave noire. Mais elle est parfaitement blanche, absolument pas métisse. J'avoue que j'ai pas trop compris, mais bon, voilà, visiblement, ça passait
les
très bien.
Les métisses dans les films américains, surtout dans les années 40-50, ils sont blancs. Hein.
Oui, oui, voilà.
C'est un peu le cas dans La Prisonnière du Désert aussi, où l'Indienne ressemble pas du tout à une indienne, à part ses nattes. Mmh. C'est quand même
c'est ça qui a dû perturber Michael Jackson. On écoute un extrait.
Tu m'as demandé ce que je voulais. Je veux moi aussi être amené devant l'empereur. Comme toi.
Alors écoute-moi. Apprends de moi. Je n'étais pas le meilleur parce que je tuais plus vite. J'étais le meilleur parce que la foule m'aimait. Gagne la foule.
Alors, cette fois-ci, c'est...
Gladiator.
Ah oui, avec Maximus, hein, autre film. Alors là, on sent tout de suite le côté hollywoodien, ouais, actuel, avec la musique
aussi,
très présente.
C'est la musique,
voilà,
d'Hans Zimmer qui m'a donné la puce à l'oreille d'entrée.
Alors, on termine avec un film très contemporain.
Le savoir est un miroir. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu la possibilité de voir qui j'étais et ce que je pouvais devenir.
Va laver la pissotière.
Bonjour, commandant.
Le jour serait meilleur, mon cher queue de plume, si vous alliez vous faire foutre ailleurs.
Hélas, je ne peux vous donner cette satisfaction. Car dès lors, je ne pourrais pas vous informer du passager clandestin que j'ai découvert en mes quartiers.
Un clandestin?
Ce choix n'était pas le sien, je vous l'assure. L'homme m'a certifié qu'il était un marin de première classe, capable de gagner son passage si vous lui offrez sa chance.
Un clandestin, c'est toujours un clandestin, même s'il chie des pépites en argent.
Est-ce qu'il vous a expliqué certaines choses ?
Entre autres, il m'a dit que leur objectif était de créer un facteur doté de libre arbitre. Yuna avait échoué. J'étais leur dernier espoir.
Manu, t'as trouvé ?
Claude Atlas. Voilà, les frères et sœurs.
Frères et sœurs Warchowski. Effectivement, film sorti en 2013, une fresque avec plusieurs périodes. Là, on entend effectivement une période où voilà, c'est Néo-Séoul avec cet esclave qui est sorti de son contexte, une esclave plus ou moins une serveuse avec un côté un peu sexuel. Et puis, on est aussi dans une autre période, le 18e siècle, où il y a encore l'esclavage de vigueur. Voilà, plusieurs temps. Ainsi s'achève ce blind test.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Alors on fait très vite, on passe à Des étoiles de Diana Guy, la réalisatrice qu'on a rencontrée il y a quelques temps. Voilà, c'est l'histoire des étoiles d'un exil entre New York, Dakar et Turin. Les destins de Sophie, Abdoulaye et Tierno se croisent et s'entremêlent. Alors l'une, Sophie, va rejoindre son mari Abdoulaye à Turin, mais son mari, lui, a quitté la ville italienne pour tenter sa chance à New York, où il pensait être hébergé par la mère du jeune Tierno, lui qui est américain, issu d'immigration sénégalaise, et qui se rend pour la première fois dans le pays de ses parents, au Sénégal, pour assister à l'enterrement de son père. On écoute.
On a construit le film Des étoiles au départ uniquement sur des correspondances entre les différents personnages. La toute première mouture du scénario n'était que des lettres en fait, que s'écrivaient les différents personnages de Sophie Abdoulaye, de sa mère, de Tierno. Et puis petit à petit, on a gommé ces correspondances qui sont devenues des séquences et des dialogues. Mais ça nous a permis d'établir des résonances un peu plus précises entre les différents territoires, puisqu'il y avait tout de suite l'idée d'abord, évidemment, du Sénégal, qui est un peu le point de départ et où se situent quasiment tous mes courts-métrages. L'Italie, qui était une destination de départ très... très clair, et puis l'ouverture vers les États-Unis, voilà.
Trois pays, effectivement. Le Sénégal, c'est l'endroit d'où les gens partent, d'où vos personnages sont partis, ceux qui reviennent, et puis ceux qui ont envie de partir. Il y a un peu ça, et ceux qui restent, tout au Sénégal.
C'est le socle, oui. C'est le socle, c'est là où convergent, comme vous venez de le dire, tous les personnages. Et après, l'idée du mouvement, donc, puisque c'est un film qui dessine des trajectoires comme ça, entre l'Italie, Turin, à travers le personnage de Sophie. Turin, qui était une ville dans laquelle j'avais très envie de tourner depuis longtemps, où j'ai observé depuis une dizaine d'années une forte immigration féminine, et pas uniquement d'Afrique de l'Ouest, mais également d'Amérique du Sud, d'Europe de l'Est. Et voilà, c'est comme ça que m'est venue l'idée de travailler sur ce personnage féminin qui arrivait à Turin, qui arrivait dans une ville dont elle ne maîtrise pas la langue. Ça, c'était important pour moi, puisqu'elle aurait pu tout aussi bien arriver à Paris, évidemment, que dans n'importe quelle autre grande capitale européenne. J'aimais aussi beaucoup la géographie de Turin, l'idée d'une ville enclavée au milieu des montagnes, à la fois une grande ville, mais pas si grande que ça non plus. Et puis une ville d'accueil dans l'histoire de l'Italie. Turin a une place tout à fait particulière, puisque après la Seconde Guerre mondiale, elle a accueilli une forte immigration d'Italiens du Sud qui sont venus travailler avec l'essor industriel, les usines de la Fiat qu'on connaît bien à Turin. Donc c'est une ville qui a une forte histoire autour de l'accueil et des flux migratoires, et qui résonne évidemment directement avec New York, qu'on n'a plus à présenter, et qui est évidemment aussi une terre d'exil et d'accueil historique. Je disais tout à l'heure que j'avais commencé à travailler plutôt dans une articulation Italie-Sénégal sur des personnages féminins. Il fallait qu'il y ait des contrepoints pour moi, et que ces trois personnages résonnent les uns les autres. Je reviens à cette histoire de correspondance. Ils ont tous un lien familial, donc. Mais c'était pas tant de faire d'être exhaustive dans une narration comme ça, un récit sur la. Je raconte pas la grande histoire de la migration, mais évidemment elle est présente de manière, enfin je dirais au second plan, ne serait-ce que dans le choix de la géographie de ces pays, hein, puisqu'on est entre quand même une triangulaire qui rappelle celle de la traite de l'esclavage, donc il y a forcément quelque chose d'historique. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'être au plus près de ces personnages, de leurs émotions, de leurs sensations, de leur solitude, à l'image de ce que je disais tout à l'heure, d'une chronique, quoi. Et pour ça, il fallait pour moi avoir des contrepoints et dans une même famille, j'ai trouvé ça intéressant d'opérer ce déplacement. C'est-à-dire que là où Sophie arrive, Abdoulaye vient juste de partir. Lui arrive à New York, où ma mamie et Tierno viennent juste de partir pour Dakar. Donc il y a une vraie circulation qui s'opère comme ça entre les différents personnages et leur parcours, leur trajectoire, qui résonne très fortement les uns avec les autres, donne à voir différents aspects, différents moments et évidemment différentes situations. Ça ouvrait un spectre plus large dans le panel, puisqu'on n'est pas dans un film... comment dire, il n'y a pas d'intrigue. On est dans quelque chose de beaucoup plus sensitif, dans des petites choses du quotidien. Et que pour tenir ça, il me semblait que c'était plus intéressant d'élargir le spectre à plusieurs personnages.
Comme l'a dit la réalisatrice, pas vraiment d'intrigue, errance, exil, immigration, racine, ce sont les éléments de ce premier long métrage qui est plutôt un petit film doux, voilà, que vous pouvez découvrir au cinéma Diagonal.
Cinérama,
je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Et on parle d'autres étoiles.
Alors je ne l'ai pas signalé en début d'émission, mais Dark Star est une sortie DVD Blu-ray, d'ailleurs la première, il est jusque-là, il était resté inédit. Et c'est donc grâce à un éditeur très, souvent très culotté, Carlotta, que nous avons droit à cette pépite. Voilà, le spectateur lambda qui s'aventurerait par mégarde à visionner c'est le premier film de Carpenter, risquerait néanmoins de confirmer l'idée selon laquelle les blagues les plus courtes ne sont pas les plus longues, mais en plus, elles sont les meilleures. Parce que, hors la sphère cinéphilique avide de curiosité et les inconditionnels de Carpenter, bon, je fais partie un peu des deux, je dirais, il est compréhensible de trouver le temps un peu long malgré sa durée réduite, 1h22. Mais cela mérite quelques explications, car au départ, Dark Star est un court-métrage d'une durée de 37 minutes. Cas d'école atypique pour un premier essai de fin d'études financé par l'université, cette bouffonnerie SF n'est pas plombée par des notes d'intention intello, par une rigueur formelle un peu rigide ou un discours théorique. Il s'agit juste d'un pastiche de SF, s'amusant à reprendre les ingrédients de deux chefs-d'œuvre de Stanley Kubrick, Docteur Folamour et 2001. Voilà, pour un budget initial de 6 000 $, le résultat impressionne quand même, à tel point que Jack Harris, producteur indépendant de The Blob et d'Attention au Blob, il avait de la suite dans les idées, il investit donc une certaine somme, je crois 60 000 $, pour transformer ce coup d'essai en long métrage. Alors évidemment, les scénaristes ont un peu tiré sur la corde et rajouté des séquences plus ou moins utiles. Mais l'originalité d'Dark Star est de dépeindre le voyage dans l'espace sous son apparence la plus banale, décrivant le quotidien morne d'astronautes cultivant une certaine glande. Leur look de baba cool et leur activité écolo rappellent un autre film de SF, le très beau Silent Running de Douglas Trumbull. Là, les hurluberlus de l'espace trompent leur ennui jusqu'au jour où un nuage électromagnétique va endommager l'ordinateur et doter une des bombes nucléaires de conscience. Ça, évidemment que ça rappelle un peu 2001. Et il faut l'amour aussi, ouais, les deux en fait. Hein. Bon, bien sûr, c'est l'ordinateur Hall, cette pensée en action qui traverse 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais dans une visée là, non pas moins philosophique, mais totalement absurde. Il faut aussi souligner au passage un passage totalement délirant. La mascotte de l'équipage est un extraterrestre singulier, une espèce de gros ballon rouge de plage doté de mains palmées qui n'en fait qu'à sa tête. C'est à nouveau une séquence hallucinante qui inspirera plus tard Alien. Et oui, il faut dire que le scénariste et l'un des interprètes de Dark Star, sera à l'origine du script d'Alien. Il s'agit de Dan O'Bannon, réalisateur aussi d'un film qui s'appelait Le Retour des Morts Vivants. Voilà. Loufoque et nonchalant, Darkstar permet aussi à Carpenter de se faire la main. Hein. Le style du futur cinéaste d'Halloween se dessine progressivement par la grande qualité des cadrages, un sens du montage évident et puis sa capacité à gérer l'espace et le temps. Voilà, tourné sur une durée de 5 ans quand même, Darkstar n'est pas un chef-d'œuvre hein, dénué de défauts. Le récit, je le disais au début, patauge un peu et on s'y ennuie parfois. On sent qu'il a fallu bien des efforts pour atteindre la durée d'un long métrage. Mais la fraîcheur de l'ensemble, l'originalité du concept et puis les folles idées qui parsèment le récit font de Darkstar une vraie curiosité. Un film de SF fauché, mais au final assez émouvant et devenu très culte avec le temps.
Donc Darkstar, c'est seulement disponible en DVD et Blu-ray.
DVD et Blu-ray. Dans une très belle copie. Ce qui nous changeait, moi je l'avais vu en VHS et c'était assez lamentable. Eh ben oui, mais il n'est pas sorti depuis.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Et on termine avec l'agenda ce jeudi 30 janvier à 17h40 au Diagonal. Beaucoup de bruit pour rien de Joss Whedon. Et oui, qui, voilà, il a changé un peu de style. C'est en suivi de débats avec des spécialistes des études shakespeariennes. Et puis le soir, au même Diagonal, il y aura A World Not Ours de Maddy Fleffel. C'est en suivi d'un débat avec l'association France-Palestine Solidarité. Ensuite à l'Utopia, ce sera aussi demain, Ne vivons plus comme des esclaves. C'est un documentaire de Yanis Yuluntas. Ça, c'est une séance avec les amis du monde Diplo. Et puis à l'Utopia, samedi 1er février à 10h30, c'est donc très tôt. C'est Eux les chiens, écrit et réalisé par Hicham Lasri. Et ce sera en sa présence. Ensuite, il y aura un ciné-campus, ce sera ce lundi, avec Johnny s'en va en guerre de Dalton Trumbo. Film culte, et avec une rencontre programmée avec Sylvain Bertschi, qui est doctorant en histoire et spécialisé dans l'histoire médicale de la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc on va apprendre des petites choses sur les traumatismes, j'imagine. Et puis encore lundi 3 février, cette fois-ci c'est au Diagonal à 20h, c'est Viridiana de Luis Buñuel.
Pas banqué. Hein.
Et c'est une séance présentée par Estève Riambeau, qui est écrivain et directeur de la Cinémathèque de Barcelone et qui aura fait le voyage.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
La semaine prochaine, il y aura peut-être à nouveau un blind test. En tout cas, il sera question de
sur les nymphomanes,
de
allez.
Jack et puis aussi de nymphomanes. Voilà, donc on retrouvera du rock'n'roll et puis un peu de nymphomanes. Et puis sinon, 24 notes secondes à suivre. C'est avec, on ne sait pas qui, mais ce sera de la musique. À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.